Prochain sujet, l'évaluation et la prise en charge de la douleur. Pour traiter de cette question, nous avons M. Ed Pager, professeur en comportement bien-être animal auprès de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Calgary. Il est reconnu non seulement au Canada, mais à l'échelle mondiale pour sa recherche dans le comportement des porcs, des vaches et du bien-être. Et il a de l'expérience en matière de loi aussi. J'ai vu ce qu'il a fait au Stampede. Il y a de la bonne expérience pour le Stampede. Alors, souhaitons la bienvenue à Ed.
Merci, Susan. Oui, même si j'ai l'impression, vous donne l'impression d'être un lutteur de bœuf, ce n'est pas ce que je fais. Et pour ce qui est d'un sujet qu'on ne peut éviter, celui de la douleur, je veux donner mes excuses à Crystal. Il n'y aura pas de présentation d'animaux en costume. Mais je ne vais pas vous décevoir les autres. Je ne vais pas conclure en vous disant que nous avons besoin d'encore de plus de recherches. Et j'aimerais remercier Dan, mon collègue, pour certaines des images que vous allez voir aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de parler de certaines questions qui sont liées à la douleur des animaux. Je crois que c'est une question vraiment importante. Ça fait partie des défis, pas seulement des défis émergents. C'est un défi que nous avons aujourd'hui et qu'il faudra vraiment régler très prochainement. Il y a énormément de pressions qui viennent d'autres parties du monde sur cette question de la douleur et de la castration. Pas la castration spécifiquement, mais la douleur. C'est quelque chose que les gens peuvent vraiment comprendre. Les gens sont inquiets de leur douleur, celle de leurs enfants. Ils pensent aux médicaments lorsque les bébés ont mal aux dents. Donc, ils s'attendent à ce qu'on ait une gestion de la douleur. On amène notre chien chez le vétérinaire, on fait faire des interventions. Ça fait partie de notre quotidien, même si il n'y a pas de lien direct à l'agriculture. Si vous pensez à ces autres questions, comme les stalles de gestation, Catherine va en parler probablement, à quel point est compliquée la question d'un système de logement et des pratiques de gestion. Et regardez tout ce que ça crée comme préoccupation dans la société et le mouvement autour de cela, les gens qui changent d'intervention, de pratique. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mais on peut facilement parler de la douleur, de l'atténuation de la douleur. C'est plus facile que de parler de d'autres questions beaucoup plus complexes. Nous allons parler de la douleur, à savoir si on peut l'évaluer, est-ce qu'il y a des options, pouvons-nous la gérer, quelles sont les conséquences de tout cela, les pressions du marché international, d'autres activités qu'on voit et ce qu'on peut faire chez nous ici au Canada et en Amérique du Nord. Je vais aller assez rapidement. Il y aura plein de données que vous verrez. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous parler de certaines des preuves parce que je suis un professeur. Je dois vous donner une définition. Alors, je vais définir la douleur. Et ça vient de l'Association internationale. C'est une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable associée à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle. Il y a simplement, on peut avoir une douleur aiguë ou chronique. Il y a d'autres définitions autour des sensations de la douleur, mais on n'a pas nécessairement besoin d'en parler aujourd'hui. D'évaluer la douleur maintenant, c'est quelque chose de difficile à faire. La douleur chronique et la douleur aiguë aiguë, c'est instantané, chronique, ça dure longtemps. Et on voit certaines des procédures ici à la ferme qui peuvent causer de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique. Mais avant de parler de ces interventions, il faut penser aux états subjectifs. Est-ce que les animaux peuvent ressentir la douleur? Nicole Tinbergen, qui était un des fondateurs du comportement des animaux, il a dit les phénomènes subjectifs ne pouvant être observés chez les animaux de façon objective, il est pareillement oiseux d'en affirmer ou d'en nier l'existence. C'est une citation de 1951. Depuis cette date, on se retrouve avec Mme Dawkins, puisque les expériences subjectives ne sont connues que de ceux qui les vivent. La seule façon dont nous pouvons inférer leur existence chez un autre être humain ou non humain est de procéder par analogie. Oui, même si on ne peut pas exactement comprendre ce que les animaux ressentent, on peut procéder par analogie. C'est-à-dire, si les animaux ont des comportements suite à la douleur, s'ils ont le même type de neuroanatomie, les mêmes réponses physiologiques, alors ils ressentent probablement quelque chose comme de la douleur. Cette question est très difficile à évaluer. Et aussi, est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce que les animaux vivent? Moi, j'ai une adolescente. La moitié de mes gènes, elle a été élevée dans ma maison. Je ne comprends pas la moitié du temps ses sentiments. Et il est difficile de savoir que vous, comme auditoire, ce que vous avez comme expérience. C'est un défi, c'est une limite. Mais on va s'améliorer. Est-ce qu'on peut évaluer la douleur? C'est un problème. Ce que nous aimerions, c'est nous aimerions trouver une seule mesure pour dire voici l'indicateur de la douleur, la voici, et c'est la douleur que ressentent les animaux. C'est quoi la mesure? Eh bien, il n'y a pas une seule mesure qui traite de cette question. Encore une fois, il faut regarder le comportement, la physiologie et la façon dont l'animal se comporte pour faire une évaluation juste. Ici, vous avez des photos d'un document écrit par Terence Schwarzkopf et moi-même sur l'évaluation des douleurs. Vous voyez qu'il y a plusieurs interventions, il y a des façons de les évaluer. Alors, nous allons regarder d'autres mesures pour du cortisol, du taux cardiaque, le comportement général. Même si nous n'avons pas des mesures précises associées à la douleur, nous avons des indicateurs. Et si vous y réfléchissez, tous les médicaments que nous utilisons quand on a mal à la tête et le reste ont été testés sur des animaux. Si ces médicaments ne fonctionnaient pas, ici, vous avez une diapo sur la démarche chez les bovins boiteux. Nous savons lorsque les animaux, les vaches laitières ont de la douleur, ils ne marchent pas de la même façon. Ils ont l'arc de la colonne, le balancement de la tête, la flexion des articulations. Donc, ce sont des indicateurs de base qu'il y a une douleur chez l'animal. La vocalisation des porcs durant la castration. L'argument a toujours été que lorsque on prend un porcelet, lorsqu'on le castre, il y a une vocalisation et que ça leur fait aussi mal lorsqu'on les prend. Mais on a commencé à utiliser les fréquences des vocalisations pour écouter les sons chez les porcelets, et on voit que c'est différent lorsqu'ils sont castrés, lorsqu'il y a cette coupure, et par rapport à d'autres partie du processus. Ensuite, ici, vous voyez que ce message est que les animaux castrés se comportent très différemment de ceux qui ne le sont pas. Ils tremblent davantage. Il y a aussi, on voit que la queue bouge davantage et le comportement de l'animal change et on peut prévoir, c'est prévisible. Alors, les vocalisations, c'est une réponse, ce qu'on voit pendant la castration, les vocalisations sont plus élevées et il y a aussi la thermographie infrarouge d'un veau qui a été castré. Et la première image dans cette série, c'est une image d'un animal qui a très chaud, une température très élevée. Pendant la castration, le sang va vers la blessure et on peut voir ce changement dans l'image thermographique. Dr. Karen Thurbrush a Saskatoon et un autre à Lethbridge ont utilisé des animaux pour regarder le mouvement de l'animal pendant la castration selon plusieurs interventions avec atténuation ou non de la douleur. Ensuite, on voit le changement de la posture. C'est très anormal de voir le veau qui se tient de cette façon. Cet animal a reçu une intervention et porte un moniteur pour le taux cardiaque. Alors, on examine ces questions. Alors, il y a un EEG et l'électrocardiogramme et on voit ces scintillements. On examine ces tableaux et on voit qu'il y a toute une différence dans ces ondes avant castration et après castration. Donc, on en arrive au point où on peut voir l'activité du cerveau qui est associée à ces interventions et voir la différence. Qu'est-ce que ça veut dire au sujet de la douleur? Il n'y a pas un indicateur précis qui est associé à la douleur. Et ensuite, nous avons un algomètre qui mesure la sensibilité. On peut regarder la sensibilité à la pression. À quel moment est-ce que l'animal se retire lorsqu'il est touché avec l'algomètre? Donc, un autre indicateur, une autre façon de mesurer la douleur dans l'animal et la sensibilité à l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder? On en discute tout le temps, mais de ces autres options. Dan Weary et David Fraser, en 2008, ont élaboré un cadre et il est utile. Je l'utilise dans ma classe et les vétérinaires de première année, nous avons un magnifique programme. Tous les étudiants doivent étudier le bien-être et le comportement des animaux et pour un grand nombre d'heures, ce qui n'est pas commun dans les autres écoles de vétérinaires en Amérique du Nord. Mais je leur demande de regarder ce tableau lorsqu'ils vont à la ferme et lorsqu'ils participent à des interventions. Quels sont les buts des procédures, des interventions? Est-ce que c'est logique qu'on fasse ces interventions? Est-ce qu'elle atteint ses buts? Quels sont les effets négatifs? Et est-ce qu'on peut modifier l'intervention pour réduire la douleur et la détresse? Est-ce que ça se fait de la meilleure façon possible pour minimiser la douleur de l'animal? Et ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter à faire telle pratique ou telle intervention. Mais on demande de regarder les interventions, de considérer des alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, est-ce qu'il y a... On a fait tout ce qu'on peut pour que le processus veille au bien-être de l'animal. Et lorsqu'on regarde ces procédures à la ferme. Il y a plusieurs activités qui sont développées pour chacune de ces options, l'ablation du cornillon, le débécage, le marquage au fer, la castration. Je vais parler brièvement de ces pratiques. Et dans le site web sur la castration des porcs, on voit la production d'animaux entiers non castrés, le sexage de la semence, la sélection génétique. On voit des aspects positifs et négatifs. D'autres différences comprennent la castration chirurgicale sans anesthésie et avec anesthésie prolongée. Est-ce qu'il y a d'autres options? Sont-elles pratiques? Peut-être pas à l'heure actuelle, mais est-ce que d'autres solutions? On y travaille, on essaie d'en mettre au point. Oui, ce n'est pas un défi émergent. C'est un point où nous commençons à mettre au point des pratiques et des approches que les gens utilisent dans différentes parties du monde. Une autre approche maintenant génétique, ce que nous avions fait traditionnellement, c'est de regarder un élevage sélectif. On a regardé l'édition des gènes où on enlève certaines parties d'un gène. C'est un document qui a été publié en septembre de cette année pour regarder cette édition des gènes. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire un changement, disons dans le cas des Holstein, pour enlever une partie du gène qui est associée au développement des cornes. Donc ça, c'est une étude qui découle de l'Université du Minnesota. Ils disent qu'il s'agit d'un processus moléculaire qui est ce qui pourrait se passer pour ces élevages. Peut-être, lorsqu'il s'agit de castration, ce type de technique, pour les porcelets, par exemple, pourrait être utilisé pour regarder la question qui est associée au bore tape. Et peut-être la manipulation génétique pourrait arriver à trouver certaines solutions. Lorsqu'on regarde ailleurs dans le monde, il faut regarder ce qui se passe en Europe. Et on l'a mentionné pour ce qui est des projets de castration. Ce rapport a été publié en 2009 et regarder des options pour la castration et pour le décornage. C'était ce qui s'est passé depuis. Nous avons eu la déclaration européenne sur les alertes alternative à la castration chirurgicale des porcs. C'est un accord volontaire en vue d'éliminer la castration d'ici le 1er janvier 2018. Il y a des groupes de soins aux animaux et des associations, des producteurs aussi. Plutôt que d'avoir une approche législative, nous allons vers maintenant une base volontaire. Si vous êtes intéressé par toute cette question de ce qui se passe en Europe et de leur approche à regarder des solutions de rechange pour la castration chirurgicale des porcs, il y a un très bon site web alternativepig.eu et ils ont plusieurs projets, des rapports, des publications. La recherche qui est entreprise sur... Et j'étais assez impressionnée. Ce n'était pas uniquement de savoir si c'était bon ou si c'était mauvais. On a regardé les impacts économiques aussi de certaines de ces décisions. Qu'est-ce que cela veut dire économiquement pour toute la chaîne d'approvisionnement si vous deviez mettre en marché ce type de porc plutôt que ceux qui ont été castrés chirurgicalement? Comment est-ce qu'on développe tout cela? On prend cela à partir de la ferme et on réalise que les consommateurs ne veulent pas un produit avec le boar tain. Mais est-ce que quelles sont les implications économiques de cela. Lorsque Sandra Edwards a parlé au sommet Tim Hortons la semaine dernière, elle a dit qu'il y a deux grands enjeux en Europe sur le bien-être animal. L'un des enjeux, la mutilation, qui est la castration et qu'on enlève la queue aussi. Et ensuite, une autre question. Est-ce qu'on peut gérer cette douleur? Et il semble qu'on peut. Il semble qu'il y a beaucoup d'informations. On sait quels sont les sites récepteurs pour les animaux. Ça fait partie de ce qu'on enseigne à nos étudiants. Il y a des techniques, il y a des vétérinaires. J'ai parlé à plusieurs vétérinaires en Alberta qui travaillent à des parcs d'engraissement et qui sont très sincères, très proactifs pour former leurs clients, les producteurs, sur la façon de bien travailler lorsqu'il s'agit d'enlever les cornes. Si on regarde l'utilisation des analgésiques, on voit qu'il y a une baisse dans ces activités où on voit l'animal en douleur. Encore une fois, ça revient sur la façon dont on met le lavacaine, comment injecter dans le scrotum d'un veau un analgésique et quelle est la conséquence pour l'animal avant la castration. Donc, il semble que l'information existe. On l'enseigne. C'est pas comme si on ne savait pas comment faire. L'une des études plus importantes s'est passée avec les poules à griller. Et c'est un document qui a été fait sur l'autosélection de du fourrage et certains ont vu la boîterie et lorsque on a vu le choix de donner de la nourriture avec un analgésique, ils ont choisi ce produit plutôt que les animaux qui n'avaient pas de problème de boîterie. Alors de donner aux animaux la possibilité de s'auto-médicamenter, ils choisissent cette possibilité. Nous savons que pour la démarche aussi, lorsque on leur donne les kétoprofènes, on voit une amélioration de la démarche chez la vache laitière. Encore une fois, d'autres preuves. Mais je vais mentionner d'autres éléments brièvement. C'est un projet auquel j'ai participé, mais avant de le faire, je vais vous montrer un exemple sur vidéo de l'effet du blocage cette image par Dr. Aaron Phil-Heller et on voit ce qui se passe sans anesthétique. Vous allez regarder le comportement de l'animal. C'est un fer chaud et on voit ça souvent à la ferme. Et c'est fait par un très bon vétérinaire. Regardez le nombre de personnes et la réponse, le comportement de l'animal. Un autre exemple sans anesthésie. Alors, vous voyez ce qui se passe. La queue bouge. Et un dernier exemple sans l'anesthésie. Donc, le comportement de l'animal, c'est une chose, et le comportement des humains, une autre. Maintenant, l'ablation du cornillon avec l'anesthésie. Un autre exemple. Encore une fois, la réponse de l'animal est la manipulation. Vous voyez à quel point il est plus facile de procéder. C'est un autre élément de tout cela. Et vous avez une personne qui le fait seul et qui tient la tête de ce veau. Alors, c'est un animal sans anesthésie ici, et il y a aussi, vous voyez, la tête qui tremble et la queue qui bouge beaucoup aussi, et c'est ce qu'on nous donne dans la littérature. Alors, la tête qui tremble, qui bouge. Et c'est un animal qui a eu l'ablation du cornillon. L'animal est plus calme. Il y a d'autres éléments de ce processus. Et comment l'animal répond-il à ces injections? Et ça fait partie de la discussion et du processus. Et il faut évidemment faire davantage de recherches, mais je pense que c'est assez clair que ça a eu un effet assez important sur le comportement de l'animal. Et n'oubliez pas, nous lui avons donné une anesthésie pour réduire la douleur. Donc, nous revenons à nos diapos.
Il y a un atelier à Iowa State et j'ai eu l'occasion d'y participer. On a examiné la documentation scientifique sur la castration des porcs. On a utilisé une approche de notation. Il s'agissait d'un processus très rigide d'évaluation de la documentation scientifique sur l'atténuation de la douleur dans les porcelets. C'est une approche explicite sur la qualité des preuves pour avoir des recommandations fortes. Il y avait Annette O'Connor qui dirigeait l'étude. Il y avait des gens de Iowa State qui faisaient partie du comité directeur. Ça a fait participer des gens de tout le monde, des gens qui avaient travaillé dans le domaine de la castration, le bien-être des porcelets. Les conclusions après avoir l'examen des preuves, et c'est la première fois qu'on en parle, au grand public, à l'extérieur des États-Unis. C'est une organisation de producteurs qui a financé cette question. Il y avait une forte recommandation, il n'y avait pas de forte, mais en fait, c'est par rapport à la documentation sur la castration. Il y a très peu de documents, très peu de documents solides sur l'atténuation. Sur les indicateurs, oui, mais sur l'atténuation, il y avait très peu de preuves dans un sens ou dans un autre. On a fait une forte recommandation contre l'utilisation de mélange CO2, O2, anesthésie générale pour atténuer la douleur. Il y avait une faible recommandation en faveur de l'utilisation des AINS et une faible recommandation contre l'utilisation de la lidocaïne qui causait de la douleur. Mais il semble qu'il y a beaucoup plus de travail à faire dans l'atténuation de la douleur. Le comité aussi conclut qu'elle est le plus gros obstacle au progrès est l'incertitude quant à la validité et aux variations attendues des indicateurs de la doula. C'est vrai, mais quelle est la mesure de la doula? Il faut mettre toutes les mesures ensemble pour essayer de comprendre leur interaction et mieux comprendre comment ces choses fonctionnent en fonction des indicateurs. Et il s'agissait de comprendre de façon détaillée toutes sortes d'autres aspects liés à l'atténuation. Ça, c'est le document auquel je me suis référé avant dans Animal Frontiers. Il y a une revue excellente qui s'appelle Animal Frontiers, produite par la Société des sciences animales des États-Unis. Et son objectif est de prendre les renseignements scientifiques complexes, les mettre dans quelque chose que le grand public peut comprendre. Il y a un numéro spécial, il y a 6 mois, qui a considéré le bien-être des animaux. Animal Frontiers, je suis sûr que vous pouvez trouver ça au web. Et dans ce document, on a regardé le contrôle de la doula chez les bovins. Et la doula des animaux est une inquiétude très importante et on doit faire encore plus de recherches. Ce n'est pas surprenant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire en ce moment. Il est très dangereux d'adopter une stratégie selon laquelle on ne doit rien faire parce qu'on n'a pas tous les protocoles, tous les médicaments, parce qu'on ne peut pas mesurer. C'est une stratégie très dangereuse pour l'industrie, peu importe l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Est-ce qu'on retarde l'action tant qu'on n'aura pas plus de recherches? Ce sont des informations de différents sites web. On voit les solutions de change pour la castration des porcelets. Il y a une campagne en Californie aussi qui dit qu'ils obtiennent le fromage des fournisseurs qui utilisent des outils comme des fers rouges, une pâte chimique caustique qui mange le tissu de la corne, etc. Ça, c'est sorti dans les derniers mois. Nous avons la page web des solutions de rechange. Et en Europe, on essaie d'éviter la castration. Ils ont fait des études bien financées, assez complexes sur les retombées qu'il y aurait. Et il y a aussi, quand on parle des stalles, des mises en bas, ça nous rappelle ce qui se passe en Europe. On dit que on peut regarder le logement collectif et le logement en stalle, mais la science ne peut jamais nous donner la réponse tonale. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'industrie commence à comprendre ces affaires. On commence à faire des recherches pour le bétail, sur la castration des porcelets. C'est une position très proactive prise par l'industrie. Mais je pense que on ne doit pas attendre plus de recherches pour prendre des décisions. En concluant, on dirait que la douleur est un problème important. Nous avons des changements dans le monde agricole. On a dit que les agriculteurs ont peur de se faire imposer des changements. Je peux comprendre ça. J'ai grandi dans une ferme de tabac dans le sud de l'Ontario. On n'est plus là-dedans parce qu'il y a des pression forte de la part de la société. On doit faire des choses différentes. On répond très lentement à beaucoup de problèmes. Ça doit changer, surtout en ce qui concerne le bien-être des animaux. C'est plus une question marginale. Ça fait partie de l'industrie. Ça fait partie des codes. Ça fait partie du débat sur la production d'aliments et on doit savoir que les industries et les pratiques de gestion vont être scrutées à la loupe et qu'il faut être prêt à prévoir ces changements. Une approche de réflexion, c'est très important, mais ça ne va pas disparaître. On voit ce phénomène de plus en plus à l'avenir. Je pense que j'ai résumé déjà tout ce que je voulais dire. Alors, je vais m'arrêter maintenant et je vous remercie de m'avoir écouté attentivement.